quelques exemples de structuralisme. Je vous préviens tout de suite que j'ai souffert sans yo sur cette affaire. J'espère que vous souffrirez un peu moins que moi. Sinon... Alors, on va prendre des exemples d'analyse structurale. Alors, je me réfère au travail d'un certain Escange qui a travaillé sur le texte de l'histoire de Cain et d'Abel. Alors, il y avait un deuxième exemple qu'il avait également étudié, ou un de ses collègues du moins, sur la résurrection de Lazare. Je vous avoue bien humblement que je n'ai pas eu le courage de m'y atteler. Alors, je pense qu'avec un seul exemple, on sera déjà amplement édifié. D'autant que, comme c'est de la haute mathématique, et mes talents dans la matière étant bien connus, je n'ai nullement l'intention de prétendre être un spécialiste de l'analyse structurale, loin s'en faut. Alors d'abord quelques rappels, si vous voulez, pour nous remettre un peu dans le bain sur ce que nous avons dit, au sujet de ce que nous avons dit du structuralisme. Le structuralisme, c'est essentiellement la grammaire du discours. Et le structuraliste, quand il a affaire à un texte, doit d'abord s'efforcer d'en mettre en évidence les contradictions, les oppositions. Le structuralisme part de l'idée que l'homme pense par opposition. Quelque chose est blanc parce que ce n'est pas noir, et vice-versa. Donc il s'agit de mettre en évidence d'abord la structure du récit qui progresse par opposition. Alors si on prend par exemple les contes russes, on a le héros du conte, et puis en général il y a un anti-héros, c'est-à-dire l'adversaire, qui va essayer de contrecarrer les plans du héros. Alors le héros a un programme, une intention qu'il va s'efforcer de réaliser dans le récit, et l'anti-héros, au contraire, lui, va s'efforcer de contrecarrer l'accomplissement du programme du héros, d'interférer à ce niveau-là, etc. Alors, la première tâche du structuraliste, c'est d'essayer de mettre en évidence ces différents facteurs qui vont interagir dans le récit et qui vont être en opposition. Donc, mise en valeur, premièrement, des oppositions fondamentales du récit qui fonctionnent un petit peu comme des pôles positifs et négatifs dans un problème de physique. En général, on se rend compte qu'un récit, d'après ces messieurs, se réalise en ceci que à la fin, n'est-ce pas, le sujet, le héros, eh bien, écarte l'anti-héros et il l'élimine. Alors, deuxième notion à mettre en évidence quand on a affaire à un texte et qu'on veut faire du structuralisme, c'est de faire la différence entre le signifiant et le signifié. Le signifiant, c'est ce qui va être justement tout au long du récit producteur de sens. Le signifié, ça va être l'essence possible que ces différents facteurs interagissant entre eux vont produire. Alors, cette opposition entre signifiant et signifié amène à une première conclusion, c'est que le structuralisme conteste qu'une œuvre, en quelque sorte, est un auteur. Qu'est-ce qu'il y a, Mme Armée ? Le signifiant et le signifié. Le signifiant, eh bien, c'est un ensemble de... C'est le jeu de ces oppositions, de la structure interne du texte, qui va produire un certain nombre de sens. Chaque élément interagissant sur l'autre, et l'ensemble de ces structures va créer un certain nombre de sens possibles. Et les sens qui vont sortir justement du jeu de ces différents facteurs, c'est le signifié. Alors, ça conduit à une première constatation, c'est qu'un texte que l'on aborde dans une perspective structuraliste n'a plus de... Peut-être fermer parce que toutes les feuilles s'envolent. Merci. Comme déjà, c'est passablement embrouillé, c'est en plus de ça. Bien. Donc, je disais que cette différence, enfin cette notion du signifiant et du signifié conduit au fait que le structuralisme conteste qu'un texte est un auteur, qui en serait le père. Il y a la négation d'un signifié dernier, ça veut dire qu'un texte est un sens précis et un seul. Comme nous l'avons dit, à partir de cette notion, un texte a un certain nombre de sens possibles. Et on le signifier, n'est-ce pas, est tout à fait différent de ce que l'on entend généralement par le sens. Signifier, ça signifie aussi ce qui est représenté par des signes. Les structures du texte sont des signes qui sont créateurs de sens. Et ce que le lecteur, et on verra même que l'expression lecteur est rejetée par les structuralistes, le lecteur n'est plus un lecteur en fait, mais ce que le lecteur reçoit, ce n'est pas un sens qui s'imposerait à lui, mais des signes qu'il perçoit, comme par exemple on perçoit un feu rouge, un feu vert, etc. Et on les interprète en disant ben, le feu est rouge, donc je m'arrête, le feu est vert, donc je passe. Donc c'est un petit peu la même idée. Un texte produit non pas un sens, mais des signifiés. C'est-à-dire un ensemble de signes que je perçois et que j'interprète. À partir de quoi ? À partir de ma culture. Pourquoi est-ce que je m'arrête au feu rouge ? Parce que justement, je suis en quelque sorte conditionné par la culture autoroutière dans laquelle je baigne pour m'arrêter quand le feu est rouge. Mais certains, par exemple, que viendrait un homme du Moyen-Âge qui se trouverait tout d'un coup en contact avec un feu rouge, il verrait exactement le même signe que moi, mais il ne n'en donnerait pas la même interprétation. Alors, ça veut dire qu'au niveau d'un texte, je le lis avec mes a priori, je reçois des signes, et ces signes que le texte m'envoie, je les interprète à partir de mon environnement culturel. Ce qui veut dire que je vais, ce texte va avoir pour moi, au niveau d'interprétation, des sens tout à fait différents de ce qu'il pouvait avoir, par exemple, pour les hommes du premier siècle, si on parle des évangiles par exemple, ils le lisaient d'une manière tout à fait différente de nous. Ils en faisaient une lecture tout à fait différente de nous. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un autre environnement culturel. Mais par contre, ce qui était commun à eux et à nous, c'était les mêmes signes. Le signifié était le même, mais les sens, c'est-à-dire les interprétations qu'on tire de ce signifié, sont fondamentalement différentes. Alors non seulement elles sont différentes au niveau d'une culture, mais elles sont différentes aussi d'un individu à l'autre. En fonction de la sensibilité de chacun, chacun justement recevra ce même signifié, mais il en tirera des sens différents. C'est-à-dire il donnera de ces signes des interprétations différentes. Et c'est ainsi qu'on arrive aux lectures plurielles dont nous parlions ensemble la dernière fois. Donc il n'y a plus un sens unique. Nous avons, disent les structuralistes, affaire à un texte qui est un texte ouvert, qui se trouve dans un état constant de germination. Voilà l'expression que ces messieurs et dames emploient. Et le fin du fin, c'est que c'est en fait une tentative matérialisée de se situer politiquement. Alors là, quand on arrive à ça, on a tout dit. N'est-ce pas ? Donc, texte en état de germination constante, pourquoi ? Parce qu'un texte est une réalité vivante aussi longtemps qu'il y a quelqu'un pour le lire. À partir du moment où un texte n'est plus lu, il est mort, parce qu'il n'intéresse plus personne. S'il intéresse encore quelqu'un, c'est parce que, précisément, ce quelqu'un, eh bien, en reçoit un certain nombre de signes qui vont déclencher un processus d'interprétation à partir de son vécu. Et un texte n'a d'importance que dans le vécu de celui qui le reçoit. Alors là, on est très loin de savoir qui est l'auteur, c'est une question qui est sans importance. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire ? C'est également sans importance. Ce qui est important, c'est l'interprétation que j'en donne moi aujourd'hui dans mon vécu. Bon, alors à partir de ces quelques généralités, nous allons prendre un exemple qui est celui justement de Caïn et d'Abel, revu et corrigé par M. Escamp, grand analyste structuraliste devant l'Éternel, et vous allez voir qu'on arrive avec lui à des conclusions tout à fait éloignées de ce qu'on peut lire quand on en fait, comme disent ces messieurs dames, une lecture naïve. Alors, premier temps de l'analyse, il s'agit d'en faire une analyse narrative. Alors, on essaye de mettre en, en évidence, nous l'avons vu, le jeu des contradictions, des oppositions plus exactement, qui sont la structure, la colonne vertébrale du texte. Alors pour cela, on se pose un certain nombre de questions. La première question, c'est qui est en relation avec quoi ? Qui possède quoi ? À qui est-ce que ce quoi-là manque ? Vous, on est en plein... C'est beau tout ça, c'est poétique, quoi, on est en plein... Bon, alors, à partir de cela, quand on s'est posé ces questions, on note deux choses, les sujets et les objets. Ce sont les deux grandes catégories dans lesquelles on va diviser les actants, comme on appelle, dans l'analyse structurale, les actants. Alors, les actants sont de deux sortes, il y a d'un côté les sujets et de l'autre côté les objets. Les sujets, eh bien, ce sont ceux qui ont l'initiative, c'est qui ? Et les objets, c'est quoi ? C'est-à-dire, le sujet, c'est celui qui a une identité, qui cherche à posséder un objet. L'objet, ça peut être d'ailleurs un autre personnage. Par exemple, dans une histoire d'amour, le sujet sera le héros qui cherche à conquérir, n'est-ce pas, l'objet aimé, comme on disait au Moyen-Âge, comme on disait à l'époque de Louis XIV, pardon. Alors, ces sujets, ces objets, on va les classer par ordre d'apparition dans le discours. C'est-à-dire qu'on note les sujets sous le signe S et les objets sous le signe O. Voilà. Alors vous allez mettre dans l'ordre d'apparition des différents sujets, des différents objets, vous mettez S1, vous savez que c'est le premier sujet, O1, vous mettez ensuite S2, S3, etc. Et ça continue comme ça, S4. Pardon, S3, S4, S5, et ainsi de suite. Même chose pour les objets, O2, O3. Et avec ça, on va faire des belles équations que vous allez voir dans un instant. Alors, dans le cas qui nous intéresse, celui de Cain et d'Abel, vous pouvez prendre le texte et vous amuser à ce petit jeu-là. Vous vous apercevrez que le premier sujet, le S1, c'est Adam, n'est-ce pas ? Il nous est dit au chapitre 4 de la Genèse, Adam comme lui est sa femme. Donc le premier actant, c'est Adam. On met S1 égale Adam. Voilà. Deuxième actant, Ève, sa femme. Donc S2 égale Ève. Remarquez tout de suite que c'est des noms tout de suite beaucoup plus poétiques que Ève. Quand on dit S2 répond présent, vous savez tout de suite que c'est Ève. C'est beaucoup plus poétique, quoi. Ça va tout de suite. Bon, alors, elle enfanta. Et elle enfanta... Ah, pardon. Alors, oui, alors ce monsieur fait quand même quelque chose d'un petit peu différent de ce que j'ai fait. Comme Adam n'apparaît plus dans la suite du récit, il l'appelle S0.
S0, oui.
Plus S0. Alors, c'est elle qui s'appelle S1. Alors, ensuite, nous avons Cain qui, lui, devient S2, pardon. Cain. Pardon, c'est le contraire. Ensuite, nous avons S3. Alors là, c'est presque blasphématoire. C'est Dieu. S3, c'est donc l'intervention de Dieu dans la suite du récit. Alors je vais simplement mettre un D avec trois petits points, je ne peux pas faire plus. Ensuite nous avons S4 qui est donc Abel, le frère de Cain. Voilà. Ensuite nous avons une réalité qui est personnalisée, qui est le péché, S5. Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Et puis ensuite, nous avons les objets. Voilà, ça c'est pour les actants, pour le sujet, et ça c'est pour les objets. En fait, il y a un seul objet qui l'intéresse, qu'il appelle O1A, qui est la bénédiction de Dieu. Bénédiction que Cain cherche à posséder. Voilà. Et en fait, il n'intervient pas, d'après Escande, d'autres objets dans le récit. Donc, 5 sujets et un seul objet. Bien. Alors, ensuite, ces objets et ces sujets, ils vont être liés par des structures, soit d'opposition, soit au contraire, comment est-ce qu'ils appellent ça ?
Domination et...
Attendez voir, je ne sais plus le mot exact qu'ils emploient.
Enfin, dominant et dominé.
Non, pas de dominant, d'approbation, enfin, ce n'est pas le mot qu'ils emploient, enfin, c'est l'idée, en tout cas. En tout cas, donc, en particulier, c'est dans un premier temps, on essaie de mettre en évidence si le sujet et l'objet sont comment dirais-je, en relation proche. Alors dans ce cas-là, on dit que ce sont qu'ils sont conjoints, n'est-ce pas? Le sujet est conjoint avec l'objet. Alors voilà, pour éviter d'écrire ça en affreux jargon comme je fais, eh bien on fait un joli petit signe qui veut dire que les choses sont conjointes. Voilà, alors quand on dit que par exemple S1 est conjoint avec O1, on fait comme ça. Voilà, alors vous avez tout de suite compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que S1, le sujet qui serait ici Ève, obtient O1, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu. C'est pas? Bon, ce qui n'est pas le cas, puisque ici Ève de toute façon ne recherche pas la bénédiction de Dieu non plus dans le récit. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, au lieu d'être conjoint, le sujet et l'objet sont disjoints. Alors on fait ce signe-là à l'envers. Voilà, disjoint. C'est clair, hein? C'est limpide. Bon, alors ensuite, ce qu'on peut écrire à ce niveau-là, c'est que S2, voilà, si j'écris comme ça, vous avez tout de suite compris ce que ça veut dire. Voilà. Quelqu'un peut me lire cette belle équation, me dire ce que ça veut dire.
S2 est disjoint avec O1.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que K1 est éloigné de la bénédiction de Dieu.
Voilà, exactement. Exactement. Alors, parce que justement cette situation est la situation de départ du récit, K1 est disjoint de la bénédiction de Dieu qu'il recherche. Et le programme du récit, voyez-vous, le langage informatique a vraiment gagné ici aussi les choses. Il n'y a pas quelque chose pour essuyer dans un chiffon? Comment ça se passe? Le programme du récit, c'est de faire passer de cette situation-ci à une situation qui serait celle-là. Pardon. À une situation qui serait celle-là. Le but de Cain, c'est d'arriver à ça. Tu vois? C'est-à-dire, tout simplement, pour dire ça en langage naïf, Cain, au départ, n'a pas la bénédiction de Dieu et il la désire, il veut la chercher. Vous avez noté tout ça dans les... Bien. Alors, pour cela, Cain, qui est un sujet, doit se transformer en sujet opérateur. Le sujet opérateur, dans un récit, c'est le sujet qui va faire se mettre en branle le programme. Le programme qui se trouve énoncé dès le départ du texte, ici dans notre cas, Cain qui n'a pas la bénédiction de Dieu et qui veut obtenir la bénédiction de Dieu. Mais pour qu'un sujet devienne sujet opérateur, il faut qu'il soit en possession d'un certain nombre de modalités. C'est si subtil tout ça. Des modalités.
Pourquoi ?
Pour qu'il passe de l'état de sujet passif à l'état de sujet opérateur. C'est-à-dire qu'il puisse mettre en branle le programme qu'il s'est fixé. Car un qui veut la bénédiction de Dieu, bon, c'est pas tout de vouloir. Il faut que maintenant, cette situation-là se transforme en celle-là. Donc il faut qu'il y ait un moteur qui mette le récit en marche pour qu'on passe de cette situation-là à cette situation-là. Alors, pour cela, il faut que le sujet se transforme en sujet opérateur. Et pour devenir un sujet opérateur, il faut qu'il soit en possession d'un certain nombre de modalités. Les modalités sont de 4 types. Premièrement, le vouloir. Il faut qu'il veuille. C'est pourquoi, par exemple, on disait, par exemple, Ève est disjointe de la bénédiction de Dieu. Ève, c'est un fait, mais elle ne sera jamais sujet opérateur parce qu'il lui manque le vouloir à ce niveau-là. Ève ne recherche pas la bénédiction de Dieu. Donc elle n'est pas sujet opérateur. Deuxième aspect, deuxième modalité, après le vouloir, le pouvoir. Alors tout ça se note, n'est-ce pas? Attendez voir, le vouloir, ça se met petit v. Deuxièmement, il ne faut pas simplement vouloir, mais encore faut-il pouvoir. Donc ça se met petit p. Mais il ne suffit pas de vouloir et de pouvoir, il faut aussi savoir. Et ça se met S. Et quand on est en possession de tous ces trois éléments-là, donc ces trois modalités, il faut mettre en action cela, c'est le faire. F. Voilà. Le faire, pardon, au niveau du savoir en particulier, on divise ce savoir en un certain nombre de conditions. Il y a un savoir qui est un savoir pragmatique, c'est-à-dire qui est donné par l'expérience, un savoir cognitif, c'est-à-dire qui est acquis par l'étude, un savoir informatif, parce qu'on l'a reçu de quelqu'un qui nous en a informé, un savoir persuasif, parce qu'on s'est trouvé au contact de quelqu'un qui vous en a persuadé, et un savoir dubitatif, c'est-à-dire un savoir qui n'est pas sûr. Voilà. Voilà. Ensuite, au début d'un récit, on trouve également une autre notion, c'est celui d'un énonciateur. L'énonciateur n'a rien à voir avec l'auteur. L'énonciateur, c'est en quelque sorte le personnage fictif qui raconte le récit. C'est un petit peu, si vous voulez, dans les mystères du Moyen-Âge, ce qu'on appelait le récitant. Bien, ici, vous avez quelqu'un, un personnage que l'auteur essaye d'incarner, mais qui, dans le texte, ne se confond pas avec l'auteur, parce qu'on refuse la notion d'auteur, et c'est pourquoi on appelle ce personnage l'énonciateur. Et cet énonciateur s'adresse à un énonciataire. L'énonciataire, c'est tout simplement le lecteur, mais on ne veut pas employer
le destinataire.
Le destinataire. Pourquoi ? Justement parce que l'énonciataire est très différent du lecteur. Le lecteur, il est passif, il se contente de lire le texte, tandis que l'énonciataire, qui est un monsieur qui a fait du structuralisme, sinon on ne peut pas être énonciataire, c'est un monsieur qui va comprendre les mécanismes internes et cachés du récit, qui va le disséquer avec la froideur d'un scientifique, qui ne sera pas ému par le récit, mais qui ensuite prendra suffisamment de recul pour comprendre qu'il n'est que celui qui reçoit un signifié, et qu'à partir de ce signifié, il peut lui donner des interprétations en fonction de sa culture, de son environnement, de sa sensibilité, bref, de tout ce que nous avons énoncé tout à l'heure. Alors, autre structure du récit, c'est l'opposition entre le vrai et le faux. Remarquons que pour les structuralistes, la vérité n'existe pas comme un absolu. Par exemple, parler de la vérité biblique, c'est une stupidité pour les structuralistes. Il n'y a de vérité que dans le texte. Et précisément, ce qui est le propre d'un texte, c'est que le texte pose au départ sa vérité. Et cette vérité, elle peut être n'importe quoi. Le propre d'un texte, nous disent les structuralistes, c'est qu'on peut lui faire dire n'importe quoi, sans aucun contact avec la réalité. Par exemple, on peut poser au départ la vérité dans un texte que ce qui est noir est blanc. Si, par exemple, au début du texte, l'énonciateur vous dit « Dans le cadre de mon récit, chaque fois que vous lirez que quelque chose est noir, vous comprendrez que c'est blanc. » Eh bien, ça, c'est la vérité. Par conséquent, quand quelqu'un croira voir du blanc, en fait, vous, énonciateur, vous saurez que c'est du noir. Voilà la vérité du texte. Et précisément, il peut y avoir dans le récit, par rapport à cette vérité de base, un certain nombre d'actants dont le programme, justement, est de faire passer la vérité pour l'erreur. Donc, il va y avoir une dichotomie entre le paraître et l'être. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'actants vont essayer de faire paraître ce qui n'est pas, et précisément le rôle du héros sera de faire la lumière et la vérité sur la véritable nature de ce qui paraît. Or, justement, le but du structuraliste, c'est de mettre en évidence ce vrai et ce faux, cet être et ce paraître, par rapport au texte uniquement, encore une fois, parce que deux vérités en elles-mêmes, il n'en existe pas, comme nous l'avons dit. Alors, pour ça, on fait des petits schémas que je vais vous faire là. Voilà, alors, on positionne le vrai. Et ici en bas, le faux. Voilà. Voilà. Alors, ici on met être. Paraître. Et là, on met l'inverse, puisqu'on progresse toujours par opposition, non-être et non-paraître. C'est ça. Et alors, dans le récit, voilà, vous allez mettre ici, par exemple, ce qui est, n'est-ce pas ? Ici, ce qui n'est pas, ce qui paraît et ce qui ne paraît pas. Par exemple, dans le récit de Caïn, c'est que Caïn pense pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu. Donc ici, on est dans le paraître, l'offrande de Caïn. Hein? Elle paraît juste, mais la vérité, c'est qu'elle n'est pas juste. Alors, donc, c'est le non-être, offrande de Caïn. Bon, vous pouvez faire la même chose pour Abel. Alors, attendez voir. Oui, l'offrande de Caïn n'est pas. L'offrande d'Abel, par contre, est juste. Mais comme Abel n'est rien, selon la signification de son nom qui signifie le néant, eh bien, elle ne paraît pas, offrande d'Abel. Voilà. Alors, à partir de ça, vous faites des petites lignes comme ça, des petites flèches qui renvoient, choc, et choc. Voilà. Alors, vous avez donc ce qu'on appelle l'amorce d'un carré sémiotique. Un carré sémiotique, ça s'appelle. Un carré de signes. Alors vous pouvez tout de suite d'un seul coup d'œil comprendre la structure du récit, savoir que l'offrande d'Abel est, attendez c'est réversible, ça peut aller dans l'autre sens aussi, hein. L'offrande, vous pouvez prendre dans le sens où vous voulez quoi, hein. Alors l'offrande d'Abel elle est, mais elle paraît ne pas être. L'offrande de Caïn elle paraît être, mais en fait elle n'est pas. Enfin, vous voyez, on peut faire tout ça facile. C'est... Comment ?
À l'infini.
À l'infini, on peut s'amuser, on va dans le sens. Alors là, l'offrande d'Abel, par opposition, donc opposition avec l'offrande de Caïn, elle est, tandis que celle de Caïn paraît. Vous voyez, on peut le prendre dans le sens où on veut, quoi. Hein. L'offrande de Caïn paraît, tandis que l'offrande d'Abel, c'est le non-paraître. Enfin, on s'amuse comme ça. Ça tourne en rond. Ça sert à montrer qu'on est intelligent, parce que le carré sémiotique, c'est le nec plus ultra de l'analyse structurale. Quand on a réussi à construire un carré sémiotique, alors on a son bâton de maréchal dans le structuralisme, c'est à peu près ça. Quoi. Bien, alors à partir de l'amorce, on n'est encore qu'à l'amorce du carré sémiotique. Vous allez voir que le carré sémiotique, c'est bien plus compliqué que ça. Là, on est juste à l'amorce. Maintenant qu'on a fait l'analyse narrative du récit, nous allons maintenant passer au deuxième stade, c'est-à-dire le programme narratif. Alors là, accrochez vos ceintures. Bien. Alors, nous allons maintenant accomplir ce qu'on appelle en structuralisme une performance. Ce qui se marque par la lettre F. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était dans une situation statique. Caïn était disjoint de la bénédiction de Dieu. Maintenant, nous allons avoir une évolution de cette situation-là. On va essayer de passer à une situation où le héros cherchait à réaliser, c'est-à-dire à la réalisation de son programme. La réalisation du programme s'appelle une performance. Non, c'est pas obligatoirement le faire. C'est la mise en place, la mise en route des modalités qui vont faire évoluer l'action.
C'est le même signe que faire.
Ah non, c'est un grand F, tandis que le faire, c'était le petit F. Ah oui, faut pas se voler. J'en ai cuit après. Bon, alors je vais vous faire. Alors, on met ensuite. PN, ça veut dire programme narratif. Deux points. Vous mettez F égale, parenthèse, S1. S1 qui était, si je ne m'abuse.
F,
qu'est-ce que je viens de faire?
Ah
oui, si, c'est ça. Si, c'est le premier verset, ça, c'est le. Donc, connu Ève sa femme, elle conçut en enfant à Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme, j'ai créé un homme, plus exactement, dit l'hébreu, avec l'aide de Dieu, je l'ai créé avec Dieu, en fait. Il y a tout un jeu de mots là-dessus sur l'hébreu. Hein. Donc, Ève, qui, alors, conçoit et enfante Caïn. Voilà, ça veut dire ça. Hein. Cette flèche, ça veut dire qu'elle enfante Caïn. Bon, alors, vous mettez crochet.
S2.
Alors, S2 K1, bien sûr, qui est disjoint de O1, d'O1, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, fermez la parenthèse, qui, lui au contraire, va évoluer vers S2, conjoint avec O1. Voilà, ça c'est le programme. C'est tout le récit de Genèse 4 qui est mis en équation.
C'est pour moi une fois, c'est sûr.
Si la Bible avait été écrite comme ça, c'est sûr que. Bien. Alors, maintenant vont entrer en jeu les trois modalités, petit V, petit S et petit P. Qui sont, comme je vous rappelle, petit V le vouloir, petit S le savoir et petit P le pouvoir. Alors, entre cette situation-là et celle-ci, il va y avoir des échanges. Alors, l'échange s'indique par ce signe-là, ça c'est un échange. C'est-à-dire qu'on va passer de cette situation-ci à cette situation-là. Donc, quand on passe comme ça, ça indique l'intention, le programme. Mais quand on remplace ça par ça, ça veut dire que là, il y a évolution de cette situation-ci en cette situation-là. Maintenant, il peut se produire aussi que là, on puisse revenir au premier stade. Alors dans ce cas-là, on ajoute, voilà, ça veut dire que la chose est réversible. Allez, c'est simple, quoi. C'est cool de source. Bien, alors, nous allons maintenant voir comment le vouloir, le savoir et le pouvoir se mettent en branle dans l'affaire de Caïn. Alors, reprenons notre performance, F, et cette fois-ci on supprime S5 qui n'a plus rien à voir, on met carrément S2, c'est-à-dire Caïn, qui lui cherche alors, S3 c'est Dieu, disjoint de O2 qui est l'offrande. O2 c'est l'offrande, j'ai oublié de vous le préciser. Dieu n'accepte pas l'offrande de Caïn. Voilà ce que ça veut dire en bon français, cette formule-ci.
C'est le nipitus de boule.
Voilà. Alors, le but de Caïn, c'est que justement S3, Dieu, accepte son offrande O2. Pardon, j'ai mis O2. Voilà. Alors, pour cela, nous allons avoir une double implication. Je mets la suite en dessous. Tout ça, si vous pouvez mettre ça sur une seule ligne, ça fait mieux, surtout que ça fait plus impressionnant pour le lecteur qui dit voilà, les gens savent. Alors, S3 va accepter. Va accepter O2. Excusez-moi, je reprends la même chose. Excusez-moi. Je suis en train de me tromper. F égale S3. Alors, S3 met ses conditions, c'est-à-dire Dieu met ses conditions.
le 10 juin 2005.
Je me perds dans mes affaires.
Tu es plus
tout le monde. Ça me rappelle quand je faisais des mathématiques. C'est ça. Voilà. Malgré ça, donc, qu'un reste 10 juin de la bénédiction de Dieu, et alors, voilà, c'est-à-dire que c'est la correspondance entre les deux équations, voyez-vous. C'est-à-dire que le Dieu qui refuse l'offrande de Caïn refuse en même temps sa bénédiction à Caïn. Et le but de Caïn, c'est que Dieu accepte son offrande pour qu'il lui accorde également sa bénédiction. Voilà ce que ça veut dire. Bon, ça c'est la performance que recherchait Caïn. En fait, dans le récit, c'est une performance qui n'est pas réalisée. Par contre, elle se réalise pour Abel, cette performance, performance-là.
O2, c'est quoi déjà?
O2, c'est l'offrande. Quelle est donc la performance qui est réalisée en ce qui concerne Caïn? Nous allons le voir tout de suite. F. S4. S4, c'est le péché. Hein.
Je crois que c'est S5.
Non, qu'est-ce que c'est?
Je l'ai retrouvé jusqu'à S4, c'est Abel.
Comment? Ah, c'est Abel, oui, c'est ça. Oui. Bon, ah oui, c'est ça, c'est Abel. C'est ça. Donc, alors lui, au contraire, son offrande est acceptée. Donc, Dieu accepte son offrande. O3, c'est l'offrande de Abel. O2 étant celle de Caïn. Et le but, c'était que Dieu n'accepte pas pour Abel, pour Caïn. Caïn aurait voulu que Dieu n'accepte pas l'offrande d'Abel. Alors.
C'est l'inverse, alors c'est 10 juin, tu vois.
Tous les V.
Ah,
je me suis trompé dans les V, oui, c'est ça. Bon. Alors. Bon. Je souffre, hein, vous comprenez tout de suite. Pardon. Alors, la bénédiction de Dieu revient sur le tapis.
Si O3,
c'est l'offrande de, c'est l'offrande d'Abel. O3, c'est l'offrande d'Abel. Alors, on remarque également que l'offrande, les offrandes O2 et O3 correspondent au vouloir. Parce que en offrant, en apportant son offrande à Dieu, Caïn veut obtenir la bénédiction de Dieu. Et c'est pour lui le moyen d'obtenir la bénédiction de Dieu. Caïn, et alors là, l'auteur remarque que le fond de la chose, la conclusion qu'il tire de ces équations compliquées, c'est ceci. C'est que le récit tourne autour de la question de l'identité de Caïn. Ève dit de lui, j'ai acquis cet homme qui est en quelque sorte un homme-dieu. J'ai créé cet homme, une sorte de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc, Caïn est lié à Dieu. Dès son origine, par sa naissance, il y a un lien avec Dieu que son nom indique. Par conséquent, comme Caïn sait qu'il est en quelque sorte une sorte d'image de Dieu, enfin une sorte d'image du Messie, d'anticipation du Messie, il pense qu'il a droit à la bénédiction de Dieu. Et comme on fonctionne par opposition, si Abel reçoit la bénédiction de Dieu, c'est donc que Caïn en est dépossédé. Et il voit Abel recevoir la bénédiction à laquelle lui, Caïn, penserait avoir droit. Comment ?
On se retrouve avec Ésaü.
Ouais. De par sa naissance, il a droit à cette bénédiction. De par son offrande, il a droit à cette bénédiction. Et voilà que de cette bénédiction, il est dépossédé au profit de son frère. Et c'est alors qu'intervient un nouveau programme dans le récit, le contrat. Le contrat qui est fait de deux choses, le mandement et l'acceptation ou le refus.
Le mandement, c'est l'acte par lequel un actant s'adresse à un autre actant qui a un pouvoir que lui n'a pas. En effet, qu'un a le vouloir d'obtenir la bénédiction de Dieu, mais il n'en a pas le pouvoir. Il croyait avoir un pouvoir en offrant son sacrifice. En fait, il s'est rendu compte, et là il faudrait qu'on fasse un carré sémiotique, mais je vous en fais grâce, que c'est un non-pouvoir. Ce qu'il pensait être un pouvoir, qui paraissait, c'est le paraître, et ça paraissait être un pouvoir, en fait c'était un non-pouvoir. Alors on met ça dans le carré que je vous ai fait tout à l'heure. Et ce faisant, maintenant, il doit chercher quelqu'un qui a le pouvoir véritable. Ce quelqu'un, c'est Dieu, et alors il passe avec Dieu un contrat. Il lui adresse un mandement, c'est-à-dire une demande. Et donc, Dieu lui dit à quelles conditions il va lui donner ce pouvoir que Cain recherche. Et ces conditions-là sont inacceptables pour Cain dans le cadre du récit, parce qu'à ce moment-là, Cain se renierait lui-même, se soumettant à Dieu, il ne serait plus Dieu. L'identité de Cain, c'est justement qu'il veut être comme Dieu, qu'il est comme Dieu. Il est comme Dieu. Par conséquent, se soumettre à Dieu, c'est pour lui nier sa condition de Dieu, et c'est donc se renier lui-même. S'il acceptait la condition de Dieu, dominer sur le péché, alors là, il a le pouvoir de dominer sur le péché, mais la question de savoir s'il a le vouloir de dominer sur le péché. Dieu lui dit, tu peux dominer sur lui, pouvoir, va-t-il vouloir dominer sur lui? Si Cain veut dominer sur le péché, à ce moment-là, il n'est plus Cain. N'étant plus Cain, nous entrons dans un autre programme narratif qui est exclu par le récit, par la structure du récit. Donc Cain ne désobéit pas à Dieu parce que psychologiquement, n'est-ce pas, quelque chose l'a empêché de désobéir à Dieu. Mais Cain désobéit à Dieu parce que la loi du récit, la loi interne du récit, la structure du récit veut qu'il désobéisse à Dieu. Voyez-vous, on n'est plus ici dans la psychologie des personnages qui sont tous considérés comme des personnages fictifs, irréels, comme de la littérature au sens le plus péjoratif du terme, n'est-ce pas ? Ce sont des personnages qui sont régis par la structure du récit. Et la structure du récit empêche Cain de se soumettre à la volonté de Dieu. Et là, on entre dans un des nœuds de la structure d'un récit selon les structuralistes, c'est-à-dire justement les conflits de vouloir. Là, nous avons trois actants qui ont un vouloir. Nous avons Cain d'abord, son vouloir, c'est d'obtenir la bénédiction de Dieu, tout en étant comme Dieu. Le deuxième actant, c'est Dieu qui a un vouloir à l'égard de Cain, savoir que Cain domine sur le péché qui se couche à sa porte. Et troisièmement, c'est le péché lui-même qui est personnalisé et qui cherche à dominer sur Cain, qui veut dominer sur Cain. Mais ce qui est ici essentiel, c'est que le vouloir de Cain n'a pas changé. Cain veut obtenir la bénédiction de Dieu. Mais pour ce faire, il se trouve en conflit avec une volonté de Dieu qui lui impose quelque chose que sa volonté refuse, ou plus exactement, que son identité, que son être refuse. C'est le problème entre l'être et le non-être, nous avons vu tout à l'heure. Si Cain accepte la volonté de Dieu, il cesse d'être Cain, c'est-à-dire l'être divin. Donc, si vous voulez, le vouloir de Dieu est un vouloir faux dans la perspective de Cain. Et Cain se doit de le rejeter. Et c'est là qu'on entre dans le conflit. Nous avons donc, si vous voulez, là ensuite, plusieurs voix qui interviennent. La voix de Dieu, la voix de Cain, la voix d'Abel et la voix du sang d'Abel. Alors, nous avons à partir de là un autre programme, une autre performance narrative qui s'inscrit. Toujours en
relation avec la bénédiction. S2. Voilà, ceci, c'est une nouvelle, d'après Escan, c'est une nouvelle définition de l'être sémantique de Caïn. Le sol va devenir hostile à Caïn, et Caïn est chassé loin du sol cultivable, et en même temps, il est disjoint avec Dieu. Il sort, il est chassé loin de la face du Seigneur. Par contre, il va y avoir conjonction entre Caïn et son nom, c'est-à-dire qu'il va garder sa véritable identité de Dieu, mais en même temps, il y a conjonction avec la mort. Caïn entre dans le domaine de la mort. Et par, justement, son acte de rébellion même, il entre dans un deuxième mandat avec Dieu. Si quelqu'un me rencontre, il me tuera. Et le Seigneur met une marque sur Caïn pour que tous ceux qui le rencontrent ne le tuent pas. Pour Escandre, la marque que Dieu met sur Caïn correspond au savoir que Caïn cherchait quant à sa véritable identité, c'est-à-dire il retrouve sa relation avec Dieu que le péché a brisée. En quelque sorte, il force la main de Dieu par son argumentation subtile avec Dieu, quand Dieu le chasse loin de la terre cultivable, il discute avec Dieu et Dieu accepte de mettre sa marque sur lui, donc son savoir, son identité, et ce faisant, malgré son péché, et est-ce qu'on dit à cause de son péché, Caïn finit par arracher à Dieu la bénédiction que Dieu lui refusait au début de la performance, et par conséquent, il obtient ce qui était son programme initial. Il obtient, en fin de compte, la bénédiction de Dieu. Et en fait, quand Caïn quitte la présence du Seigneur, il quitte la présence du Seigneur en vainqueur. Il a accompli sa performance et il va maintenant avoir la possibilité de vivre en conformité avec son origine, une origine qu'il a conquise de haute lutte sur Dieu. Voilà ce que serait la conclusion de toutes ces savantes équations pour Escan. Et ce serait ça que c'est en tout cas, vous allez voir ce qu'ils ont dit lui-même tout dans un instant. Et alors il arrive à la conclusion qu'on retrouve en fait ici le vieux mythe d'Œdipe qui tue le père pour pouvoir vivre libre. Caïn a en quelque sorte éliminé Dieu de sa vie, il a contraint Dieu à lui donner sa nature, et en se révoltant contre Dieu, il s'est affirmé libre, libre maintenant de quitter ce sol que Dieu a maudit pour construire un monde dont il sera le maître. Un monde lorsqu'il construit une ville. Et c'est le début de la civilisation urbaine. Voyez-vous qu'on arrive ici, avec l'analyse structurale, exactement à contresens complet du texte. Parce que le texte biblique nous dit exactement l'inverse. Que la révolte de Caïn, non seulement l'amène à perdre la bénédiction de Dieu, mais également avoir la malédiction de Dieu s'attacher sur lui, sur toute sa race et sur toute la civilisation qu'il crée, sur toute la civilisation technicienne. Au contraire, pour Escandre, la civilisation technicienne est la marque de la liberté de l'homme, de la grandeur de l'homme, de la divinité de l'homme que Caïn a conquis de haute lutte contre Dieu, en s'élevant contre Dieu, dans son acte de rébellion, dans son acte de meurtre. Alors, voyez-vous où on arrive, finalement, avec ce genre de choses. Pour arriver à la réalisation de ce programme, Caïn doit surmonter un certain nombre d'épreuves, comme tous les héros de tous les contes russes. Alors, il y a trois types d'épreuves. L'épreuve principale, l'épreuve qualifiante, qui permet à Caïn de s'affirmer, et puis enfin l'épreuve glorifiante, qui est la dernière, celle dans laquelle il arrache à Dieu la bénédiction que Dieu voulait lui ôter, en quelque sorte, il se montre plus malin que Dieu, c'est ça que veut dire Escan. Et arrivé à ce stade, nous avons terminé pratiquement l'analyse structurale, il ne nous reste plus qu'à faire le carré sémiotique, c'est-à-dire le fin du fin de l'affaire, qui résume toute l'analyse, en un schéma simple à comprendre, au premier coup d'œil, on a tout compris. On a compris qu'en fait, c'était le vieux mythe d'Œdipe qui était ainsi récupéré. Alors, au départ, il y a le problème de l'identité de Caïn. L'identité de Caïn, qui en fait est une identité divine. Cette identité, elle est héritée par sa mère. Et à la fin de la performance, elle va être reconnue par Dieu et par Caïn. Alors, pour que on passe de là à là, de la situation où l'identité est héritée à celle où elle est reconnue, il y a un certain nombre d'objets, le « ça », dont je parle en toute la démonstration qu'on a fait tout à l'heure, qui par l'intermédiaire du vouloir, du pouvoir et du savoir, va faire que le « ça » va arriver à la prise de conscience du « moi, je ». Toujours par le même moyen, vouloir, pouvoir et savoir. Alors, le « entre », n'est-ce pas ? Il y a l'être de Caïn et le paraître. Caïn ne sait pas encore ce qu'il est au début de la performance. À la fin, cela apparaît. Le paraître, c'est-à-dire un homme maudit, fait place à l'être, un homme qui est semblable à Dieu. Alors, ensuite, nous avons le regard favorable que Dieu a jeté sur Abel, qui va permettre la réalisation du programme, faisant prendre conscience à Caïn de son origine terrestre. D'où, alors, par sur Abel, la performance qui nous place au centre, le meurtre d'Abel. Qui fait que par ce meurtre d'Abel, l'identité est conquise. L'identité de Caïn est conquise, et par conséquent, son identité n'est plus seulement d'origine terrestre, mais elle est d'origine divine, parce qu'il a conquise de haute lutte contre Dieu. Voilà. Alors, à partir de là, on retrouve les grandes lignes de toute analyse structurale à partir de cet exemple, et je conclurai là-dessus. D'abord, il s'agit de découper le texte, enfermer le texte. Par exemple, dans la Bible, bon, on ne peut pas analyser de cette manière-là toute la Bible. Donc, il faut prendre un texte qu'on va fermer, dont on va fixer les limites, les frontières. Par exemple, ici, est-ce qu'on avait pris le chapitre 4 comme une entité en soi ? Bon, quand, en ce qui concerne la Bible, c'est un procédé tout à fait artificiel, disons-le dès le départ, parce que la Bible est un tout. De la Genèse à l'Apocalypse, on ne peut pas isoler un texte de son contexte. Et vous savez que c'est la faute majeure que l'on reproche, par exemple, à ceux qui font de l'exégèse ou qui commencent dans la prédication, qui parfois tirent un texte de leur contexte, de son contexte, et finalement passe à côté du sens, de la signification. Donc, le fait d'enfermer un texte, comme disent les structuralistes, de cette manière-là, déjà, est une approche faussée dès le départ du problème de la Bible. D'autre part, comme l'avons dit, cela aboutit à l'idée qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de vérité en soi, il n'y a de vérité que relative, et finalement, c'est une des grandes affirmations du monde technicien moderne. La vérité ne se trouve que dans un texte, que dans le texte, qui a chaque texte une vérité différente. Cette vérité n'est pas, encore une fois, un absolu en soi. Ce n'est qu'une convention, la vérité. Une convention aussi longtemps qu'on se meut dans le cadre du texte. Mais à partir du moment où on sort de ce texte, eh bien, ce serait tout à fait stupide et absurde de croire que cette vérité de ce texte est une vérité pour moi, une vérité absolue. Par exemple, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est vrai aussi longtemps qu'on reste dans le cadre de la Bible, et dans le cadre des choses religieuses, on peut dire que Jésus est la vérité, mais dès qu'on sort dans la réalité du monde, Jésus n'est plus la vérité.
Vous voyez ce que ça veut dire? Donc c'est la négation du fondement de l'Écriture. C'est la négation de la vérité de l'Écriture. Deuxièmement, à partir de l'interprétation, troisièmement plutôt, à partir de l'interprétation des signes que l'analyse du discours nous donne, et nous avons vu que le brave Escandre, il a une sacrée interprétation de ces fameuses équations qu'il a mises là, on peut tout dire. Je ne sais pas si vous auriez imaginé de voir dans l'histoire de Caïn le mythe d'Œdipe tuant son père. Il faut le faire. Eh bien, à partir de l'analyse structurale, on peut tout dire. Il n'y a pas un sens qui serait le sens du texte. Et encore une fois, il y a une pluralité de sens parce que nous sommes ici dans le cadre d'un discours. Et pour les structuralistes, le discours, dans le discours, tout est permis. C'est pourquoi le discours est le domaine privilégié des romanciers, donc des poètes, c'est-à-dire des gens inutiles, des gens qui sont un luxe pour la société. Mais on n'est pas, évidemment, on ne peut pas se situer à partir du discours dans le monde pragmatique, dans le monde réel, qui lui n'est autre que le monde matériel, le monde de la technique, en fin de compte. Et là, je vous renvoie à la critique du structuralisme par Jacques Ellul dans La parole humiliée, qui prend justement le contre-pied total dans son livre des conclusions du structuralisme, au terme desquelles le discours ne voudrait rien dire, en fin de compte, et le discours serait totalement inutile et totalement vain par rapport à l'action, par rapport à la création technique, par rapport finalement à la démarche de Caïn, telle que la voient justement les structuralistes. Et c'est pourquoi finalement, prendre l'exemple de Caïn pour étudier le structuralisme, c'est tout à fait approprié, parce que justement, Caïn se trouve par le structuralisme valorisé, alors qu'au contraire, dans la Bible, il est dévalorisé. Sa démarche est dévalorisée, et finalement, les structuralistes arrivent à la démarche inverse, où Caïn se trouve valorisé, étant comme, présenté comme l'homme véritable. Quatrième conclusion, c'est que le structuralisme apporte de l'eau au moulin de Bultmann et de tous les tenants, justement, de la... Comment est-ce qu'on appelle ça? L'histoire des formes. On a commencé à étudier Bultmann, on y reviendra la prochaine fois si vous le voulez. Savoir qu'au niveau des évangiles, par exemple, le Jésus de l'évangile n'a rien à voir avec le Jésus historique. Le Jésus des évangiles, c'est le Jésus de la foi de la communauté chrétienne primitive, qui, à partir de certains nombres de présupposés culturels qui étaient les siens, a conçu dans le discours un Jésus mythique, entièrement mythique, qui se meut dans un univers mythique, qui est l'univers du discours, justement, l'univers de la parole. Et là, on rejoint absolument la pensée de Lul, la parole humiliée, tout à fait ça. La parole qui n'a plus de valeur et qui n'est que source de malentendus. Par conséquent, nous ne pouvons rien connaître du Jésus de l'histoire au travers des évangiles. Le Jésus de l'histoire n'a rien à voir avec le Jésus des évangiles qui n'existe que dans la foi et dans le discours de la communauté chrétienne primitive. Alors, à partir de là, eh bien, on arrive à la négation de toute possibilité de connaître Dieu, toute possibilité pour Dieu de se révéler véritablement, puisque le seul moyen que Dieu a choisi pour se révéler est sa parole, et comme l'avons vu, sa parole, la parole ne veut plus rien dire. Donc, n'est-ce pas, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de prière possible. La prière est aussi discours que l'on adresse à Dieu, à moins que l'on entende par prière le travail, comme le croient un certain nombre de disciples de Bultmann, travailler c'est prier. Il n'y a plus finalement qu'une tentative de se situer matériellement et politiquement, comme le disaient tout à l'heure les auteurs du structuralisme. Alors, voilà la conclusion justement d'une table ronde entre structuralistes, dont justement le type qu'a étudié ici Cain, et qui disait à peu près ceci. Depuis que je fais du structuralisme, disait l'un d'entre eux, je ne me pose plus la question « Pourquoi est-ce que j'existe ? Quel est le sens de mon existence ?» C'est une question qui m'a maintenant sortie complètement de mon horizon. Par contre, cette question se trouve remplacée par celle-ci. « Comment fonctionne ma relation avec l'autre ?» Je vous renvoie à l'élu de la parole humiliée. N'est-ce pas ? Qui nous montre que le structuralisme, c'est exactement la conséquence du système technicien, c'est la négation de toute signification, de toute finalité, pour revenir dans une vision technicienne des choses, comment ça fonctionne, non plus ce que ça veut dire, non pas qu'est-ce que l'auteur a voulu me dire, mais comment ça fonctionne. C'est un démontage, c'est une dissection du discours pour en comprendre les mécanismes et les structures, mais non plus pour comprendre une parole. Pour comprendre le message qu'elle veut véhiculer, le message qu'elle veut porter. Et le structuralisme, selon Ellul, est l'aberration suprême du système technicien, au niveau de la parole dont il nie la réalité, la valeur, et finalement qui se trouve être la parole humiliée. Donc, je ne pose plus la question de savoir pourquoi j'existe, mais comment fonctionne ma relation avec l'autre. Et ceci est le résultat de la communication. Grâce au structuralisme, maintenant, on va pouvoir communiquer. Alors, quand je vous dirai S1 conjoint d'S2 et de O2, vous comprendrez tout de suite, il y aura entre nous une communication formidable. Là, on va se comprendre, on sera tout de suite branché sur la même longueur d'onde, on va se comprendre d'une manière extraordinaire. La tarte à la crème de la communication, relation communication, tarte à la crème du système technicien aussi. Ça, je crois que là, on y est en plein. Alors, est-ce qu'on disait ceci ? Par exemple, dans la découverte de l'identité de Cain, j'ai construit, à partir des signes, à partir du signifié de ce récit, un certain sens. Est-il bon ou mauvais, ce sens-là ? Je n'en sais rien. Je m'en fiche. Que ce soit un sens qui soit bon ou mauvais, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que j'ai été producteur de sens. C'est que ce texte m'a parlé pour moi, et il m'a parlé à partir de ma culture, ça on croirait volontiers, pas besoin de le dire. Et il conclut que nous sommes très loin ici d'analyse historico-critique, que nous avons étudié en son temps d'ailleurs, pas, où il s'agit de voir si l'auteur n'a pas été influencé par la culture de son temps. L'auteur, il n'existe plus dans le structuralisme, il n'y a plus d'auteur, n'est-ce pas ? Par contre, le lecteur, lui, eh bien, il lit à partir des a priori culturels qui sont les siens. Et c'est pour ça que ce texte lui parle, c'est pour ça qu'il a encore quelque chose à recevoir de ce texte, c'est pour ça qu'il lit encore. Alors, la table ronde conclut ceci. De toute façon, maintenant, les jeunes qui sont initiés aux mathématiques modernes, notamment à la théorie des ensembles, j'y connais pas un mot, alors je ne peux pas en parler du tout, je répète bêtement ce qu'il dit, eh bien, auront les plus grandes facilités à appréhender ce genre de choses. Je ne sais pas, c'est possible, je ne sais pas si Hermès serait d'accord avec ça. Tu fais des ensembles un peu de temps en temps ? Pas trop ? Ouais, c'est en maternelle, évidemment, ils n'en sont pas encore là. Mais enfin, bon, c'est possible, hein, n'importe comment. Ce serait pas. Non, oui, justement. Et, alors là, on retrouve aussi une autre grande tarte à la crème. La table ronde disait, de toute façon, ce genre d'exercice ne peut se pratiquer qu'en groupe. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ça révolutionne dans les églises les études bibliques. Les études bibliques étaient totalement abandonnées maintenant. Depuis qu'on fait du structuralisme, les gens viennent aux études bibliques, ils prennent du goût à étudier la Bible, etc. Parce que, justement, il n'y a plus d'enseignants ni d'enseignés. Et voilà, on retrouve la grande tarte à la crème. Le structuraliste n'est qu'un technicien, il n'y a plus de ministère, c'est la négation des ministères. Il n'est qu'un technicien qui est là pour conseiller, pour dire, ben voilà, par exemple, ici, voilà comment ça marche, je vous fais le carré sémiotique, alors vous mettez, par exemple, ici, hein, on va en refaire un qui est le carré de base, si vous voulez. Alors, le technicien, par exemple, prend un texte quelconque, eh bien, il vous fait, par exemple, ici, blanc, hein, noir, non blanc, non noir, voilà un carré sémiotique, noir, pardon. Bon, alors, vous faites des flèches, comme ça, une flèche qui va comme ça, bien ici. Alors, ici, ça ne peut aller que dans ce sens-là, hein. Ce sont les flèches ici qui représentent les oppositions. Donc, on ne peut quand même circuler que dans un sens à ce niveau-là. Même chose ici, on ne peut circuler que comme ça. Ça, ce sont les contradictions. Alors voilà, le technicien vous fait un beau machin comme ça. Et puis ensuite, les gens s'amusent à se voyager là-dedans. Alors, ils font la relation, tiens, blanc. Tiens, blanc, c'est pas noir. Ah, c'est intéressant, ça. Ils commencent à l'agglucer là-dessus, à disserter là-dessus. Et alors, ils découvrent des choses absolument formidables. Chacun devient producteur de sens. C'est ça qui est extraordinaire dans les études bibliques. C'est que chacun devient producteur de sens. L'un trouve Oedipe dans l'histoire de Caïn, d'autres trouvera, je ne sais pas quoi, des choses extraordinaires, etc. Et alors, à ce moment-là, on arrive à cette conclusion, c'est que le fait lui-même n'est pas atteignable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'histoire de Bultmann. On ne nie pas qu'il y ait un fait, mais en tout cas, on n'en a plus le fait, on n'en a que des interprétations. Ce ne sont donc que des structures. Et là, donc, nous voyons comment l'analyse structurale est en fait une destruction, non seulement de la Bible, mais de tout langage, de tout texte. C'est une négation de la parole. C'est une humiliation de la parole. Et par conséquent, dans la mesure où la Bible est parole de Dieu, c'est le coup final qui est porté à l'autorité de la parole de Dieu. C'est la confirmation de toutes les thèses de l'école de la... l'histoire des formes, l'école de Bultmann, etc. Et par conséquent, il ne reste plus rien de la Bible, il n'y a plus qu'à fermer la Bible, et il n'y a plus qu'à faire autre chose quand on fait le structuralisme, autrement que pour s'amuser comme on joue aux échecs, parce que finalement, ça revient à ça. Voilà, en gros, si vous voulez, je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'Armel.